Stop, c'est parti. Comment ça marche le journalisme?
Sur Twitter, Instagram.
On est dans un moment de grande confusion.
You are fake news.
La bonne réponse.
Il est 9h40, passé de 30 secondes sur France Inter et je vous souhaite la bienvenue dans l'Instant M.
Quand on regarde une série, on sait que ça va se terminer.
Vous voulez me spoiler?
Spoil.
On ne se ferme pas les yeux aussi facilement qu'on se bouche les oreilles.
Unité de temps, unité de lieu, unité d'action, l'interrogatoire de police. Tous les metteurs en scène rêvent de ce duel psychologique, de cette joute verbale à huis clos qui ne repose que sur le champ contre champ. Netflix mettra en ligne vendredi une série tournée dans 4 pays. La France, l'Angleterre, l'Espagne et l'Allemagne. Les épisodes sont complètement autonomes. Chacun d'eux raconte une garde à vue. Il faut regarder le triptyque français en entier. Car dans ces face à face entre policiers et suspects, surgit toute une société. Ses procédures, ses mœurs, ses rapports de force, ses non-dits. Où l'on comprend qu'un interrogatoire, au fond, c'est comme une interview de radio. L'auditeur en apprend autant sur l'interviewé que sur l'intervieweur.
L'Instant M. Sonia de Villers, sur France Inter.
Il vous a préparé ? Alors tu vois, c'est nouveau ça. Les grands patrons sont coachés par leurs avocats pour les gardes à vue. Alors, on vous apprend quoi? Ça m'a toujours intrigué. À respirer calmement. À fixer votre interlocuteur, comme ça. Et pousser dans le vide un ouvrier qui pose problème. Vous avez appris ça toute seule?
Excusez-moi, on va vraiment rester dans ce registre.
Maître.
Je ne vais pas vous laisser me parler comme ça.
Extrait de Criminal qui sera mis en ligne sur Netflix le vendredi 20 septembre. Bonjour Frédéric Mermoux.
Bonjour.
Chez Netflix, on vous a préparé à l'interview radio.
Ah oui, j'ai eu plein de coachs.
Je suis totalement, mais totalement frappée par la ressemblance visuelle entre la pièce où vous avez tourné cet interrogatoire de police, ces trois gardes à vue, et le studio dans lequel je vous reçois. La pendule est la même, les micros sont les mêmes, il y a cette même vitre, il y a l'autre côté dans la pénombre avec les techniciens qui nous regardent. Bref, c'est extrêmement troublant. Frédéric Mermoux, vous êtes le réalisateur des 3 épisodes français et leur coproducteur. Pour le cinéma, vous avez tourné Complice et Moka, déjà un polar, déjà un thriller psychologique. En plus, vous avez tourné Du Engrenage pour Canal+. Bref, c'est votre cam. 3 affaires dans Criminal, 3 affaires françaises, 3 gardés à vue, 3 superbes acteurs. Sur le banc des accusés, une victime du Bataclan, une femme chef d'entreprise dans le BTP, un vendeur de fenêtres. Ce sera Sarah Giraudeau, Nathalie Baye, que moi j'ai trouvé exceptionnelle, et Jérémy Régnier.
Elle est sous le choc, on peut la faire craquer.
Il a raison.
Mais faut pas relâcher la pression.
Vous voyez bien qu'avec elle, la confrontation, ça marche pas.
Tant tu veux encore la ménager?
Non. Je veux tenter autre chose. On laisse retomber un peu, ok?
Je pense aussi que tu as tort. Des interrogatoires, mais on a des centaines derrière nous.
Si je te laisse entrer, tu t'excuses, tu lui apportes un café et tu lui donnes les nouvelles qu'on a de l'hôpital. Elle reprend confiance et ensuite tu la fais doucement revenir sur son lien avec la victime.
Au terme de ce triptyque, Frédéric Mermoux, il y a quelque chose qu'on comprend. C'est qu'il y a de multiples ressorts dans la garde à vue et qu'une garde à vue, ça ne signifie pas forcément faire craquer un suspect. C'est que il n'y a pas un objectif unique, à savoir l'aveu, mais la vérité, ce qui n'est pas tout à fait la même chose.
Oui, absolument. C'est-à-dire que ce qu'il faut se dire déjà, c'est que quand on est en garde à vue, pour le suspect, il est déjà dans un état, une fébrilité, si on veut, qui est pas si facile à gérer, quoi. Et qu'au fond, les flics ont un cas, ils font des hypothèses, et leur travail, c'est de tester des hypothèses pour arriver, en tout cas, en effet, non pas au vraisemblable, mais en tout cas, une vérité qui va pouvoir permettre de comprendre ce qui s'est passé, quoi, pour le coup.
En revanche, vos 3 interrogatoires ont ceci en commun, c'est qu'il y a toujours 2 temps chez le suspect, et vous jouez beaucoup dans la mise en scène avec cela, il y a quelque chose qui doit lâcher, il y a un moment de bascule, il y a un avant et un après.
Ouais, absolument. L'idée, c'est qu'au fond, dans le dispositif, il faut d'abord qu'on puisse jouer avec le spectateur et que chacun, et les flics et le spectateur, puisse se demander mais est-ce que la personne est coupable ou pas.
C'est
la première question, si on veut, un peu factuelle, quoi, en quelque sorte. Mais indépendamment de cette question-là, il y a aussi de la vérité de ce qu'a vécu le suspect, parce que s'il est là, c'est quand même qu'il y a un micro-élément, en tout cas, qui fait que on s'intéresse à lui, quoi. Mm-hmm. Et c'est vrai qu'on a essayé, en tout cas, pour chaque épisode, d'avoir un moment où le personnage qui se met à nu, c'est quand même une mise à nu, une garde à vue, qu'à un moment donné, au-delà du processus, quoi, au fond, il y ait un événement qui fasse que il se livre même aux policiers.
Avec votre scénariste, vous vous êtes plongé dans un manuel de police parce que c'est en réalité, et vous jouez aussi là-dessus, très technique, un interrogatoire.
Ouais, alors moi, comme j'avais fait Engrenage auparavant, il y avait ce goût quand même pour, en tout cas, avoir une base extrêmement réaliste, quoi. Donc, moi, j'ai travaillé avec...
Je rappelle que Engrenage, la série de Canal+, c'est toujours le triptyque, la police, la justice et les avocats. Et donc, c'est toujours ce trio. Et donc, c'est des scènes récurrentes.
Voilà, et avec une idée, en tout cas, qu'il faut que les événements soient très documentés, quoi. Ouais. Donc, moi, avec mes scénaristes Mathieu Missoff et Antonin Martin-Hilbert, on avait aussi des contacts avec des avocats et des flics, et en tout cas, à chaque étape, on essayait en tout cas de faire en sorte que ça soit crédible et que on prenait au sérieux, si on veut, la procédure française, qui est d'ailleurs différente de la procédure anglaise, allemande ou espagnole.
Et qui est très présente. Vous y faites beaucoup de références très jargonneuses, très professionnelles, mais vous jouez avec cela.
Ouais, absolument, parce que bon, d'une part, je trouve que le spectateur maintenant a comme une assez bonne culture, si on veut, de ce qui se passe. Parce que
c'est 40 ans de séries policières, ouais, c'est ça?
Non, mais les gens sont friands quand même des séries policières, donc ouais. Il y a quand même une sorte de background ouais. commun. Ouais. Ouais. Et ce qui permet aussi, en effet, d'être plus elliptique, d'être plus punchy, si on veut. Quoi.
C'est un invariant, hein, l'interrogatoire de police est un invariant du polar. Il y a une longue tradition cinématographique derrière vous. Vous avez un maître étalon, vous avez une séquence culte au cinéma de cela qui vous sert.
Je dois vous avouer que quand j'étais ado, quand j'ai vu Garde à vue de Miller,
c'est pas très original,
ça avait été un choc quand même.
Lino Ventura et Michel Serrault enfermés en tête-à-tête dans un commissariat.
Gilles Marchand aussi, ouais. Et Guy Marchand, pardon. Et c'est vrai que c'est un film qui, pour moi, j'avais été sidéré, parce que je crois que c'était la première fois où je voyais un film qui avait une telle unité de lieu. Alors, il y a des flashbacks, c'est vrai, quelques flashbacks, mais le dispositif m'avait vraiment fasciné, quoi. Et je pense que c'est un film qui a contribué, en tout cas, à ma vocation, si je puis dire.
Alors, unité de lieu, parlons-en précisément.
Il y a eu un silence terrible, et puis de nouveau des bruits secs en rafale. Et là, ça a été la panique. Et les gens qui se sont jetés par terre, ça a commencé à crier, à courir.
On devrait faire une pause.
Vous aussi, vous êtes jetés par terre?
Moi aussi, oui. J'avais presque rejoint Alex, mais je me suis couchée par terre comme tous les gens autour de moi. Et c'est là que j'ai remarqué qu'Alex était déjà au sol.
Ce que je trouve absolument passionnant dans le projet Criminal de Netflix, c'est que la garde à vue, l'interrogatoire, c'est un moment de duel psychologique en huis clos, c'est un moment de pause au milieu d'un film d'action. Parce que d'abord, il y a eu le meurtre, où il y a eu le braquage, ensuite il y a eu la cavale, il y a eu l'enquête, il y a eu l'arrestation, il y a eu le procureur, il y a eu tout ça. Et puis ensuite, seulement, il y a le face-à-face entre le flic et le gardé à vue et le mis en cause. Et là, il n'y a que ça. Et donc, à vous, dans un seul lieu, c'est-à-dire la salle de l'interrogatoire, de faire rentrer toute l'histoire, tout l'avant.
Oui, absolument. Non, c'était ça un des défis de la série, et je trouve que c'est une des grandes idées de la série, c'est qu'au fond, en général, les polars nous abreuvent de scènes d'action, de péripéties, voilà. etc. Alors que là, on concentre tout dans cette arène, on a un hors-champ qui est lié au son, et quelques informations qui proviennent de l'extérieur ou quand on explique le cas, mais au fond, on est dans une sorte de temps réel, brut, qui est assez fascinant, quoi.
C'est ça, il y a quelque chose de très théâtral, parce que au théâtre, justement, il y a chaque acteur à un arrière-monde, celui de son personnage, de son ancienneté, mais on a à sa disposition aucun flashback, aucun moyen de s'échapper finalement.
Carrément. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au fond, l'action devient, c'est la parole qui devient action, quoi.
Absolument.
C'est-à-dire que là, on prend vraiment au sérieux cette idée que la parole, elle est performative et que c'est elle qui, par moment, peut faire avancer le récit et nous amener vers la vérité, quoi. Et on n'est pas une parole descriptive, on traque, si on veut, la parole comme action et on traque le lapsus. On traque le détail, quoi, en quelque sorte.
Alors,
quoi.
Comment a été coordonné ce projet, hein? Je rappelle que 3 gardes à vue en France, l'équivalent en Angleterre, en Espagne et en Allemagne. Quel était le brief, si je veux utiliser là aussi un mot de votre métier, quel était le brief de Netflix pour que ce projet soit cohérent dans les 4 pays?
Ben, d'abord, il y avait un concept, un dispositif qui était très fort, minimaliste, épuré, qui était cette idée des gardes à vue et du huis clos. Quoi. Mmh. Ça, c'était vraiment, si on veut, la matrice du show. Ensuite, chaque réalisateur de chaque pays, en quelque sorte, coordonnait le bloc de son pays, quoi, en quelque sorte. Donc, on était des sortes de sous-showrunners, si je puis dire, du show. Ensuite, c'était bien sûr validé. Il y avait les Anglais qui étaient les créateurs du show, si on veut, superviser, donner des inputs, etc. Mais je crois que la grande idée qu'ils ont eue, c'est qu'une fois qu'ils ont créé le dispositif, ils nous ont laissé quand même une certaine liberté. Ils ont laissé chaque pays s'accaparer le dispositif. Alors, et ce qui est assez étonnant...
Y injecter sa culture, voilà, ses procédures, sa langue, ses fantasmes.
Exactement, ouais. C'est son inconscient collectif.
Oui.
C'est presque son histoire aussi, j'imagine, de polar national, en quelque sorte, si je puis dire.
Évidemment, puisque... évidemment.
Et donc,
parce que tout ça est très référencé pour l'imaginaire du téléspectateur.
Complètement, ouais, complètement. Et donc, je crois que le dispositif était si fort qu'au fond, l'unité s'est faite assez naturellement, quoi. Et je vois même, moi, nous, quand on travaille avec les deux autres scénaristes, nos histoires, on arrive chacun avec des histoires, et au fond, vous savez, c'est assez étonnant, les parties, tout d'un coup, constituent un tout, et c'est comme s'il y avait une sorte d'inconscient, et de la série et du bloc, qui fait qu'il y a une unité. Alors, évidemment, ça se travaille, hein, c'est pas non plus pur hasard, mais quand même, je suis persuadé que dans ce type de projet, il y a une sorte d'inconscient de la série qui, au fond, travaille et se révèle peu à peu, quoi.
Et se met à l'œuvre. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on vous a imposé plus qu'un dispositif. On vous a imposé un même studio pour les quatre pays. Vous avez tous tourné dans la même salle d'interrogatoire. Alors, j'aimerais qu'on parle de ces trois lieux parce que, en réalité, en termes de mise en scène, vous n'avez que trois lieux. Vous avez l'intérieur de la salle d'interrogatoire. Vous avez de l'autre côté de la vitre Santin, une salle dans la pénombre où l'autre moitié de l'équipe des policiers observe ce qui se passe à l'intérieur de la salle d'interrogatoire, et vous avez tout simplement le couloir. D'abord, un mot sur la lumière, parce que ce sont trois lieux, trois lumières. Une lumière très crue, une pénombre et une lumière plus chaude.
Ouais. Alors l'idée de la lumière dans la salle d'interrogatoire, c'était d'avoir une lumière assez dure et assez crue, quoi, au fond, dans laquelle on ne pouvait pas savoir si on était le jour, la nuit, au printemps ou en hiver, quoi.
Et c'est un même chef opérateur qui a tourné pour les quatre pays.
Il y a un chef opérateur anglais qui a fait la disposition de la lumière pour le bloc anglais en premier, ensuite un chef opérateur espagnol qui a repris, si on veut, les codes et qui a fait les trois autres blocs, quoi.
Ouais.
Et le seul endroit où la lumière change, c'est dans le couloir, parce qu'on a des vitres avec des découvertes, et chaque bloc se joue dans une saison. Nous, c'était le printemps, les Anglais, par exemple, c'était l'hiver, et donc là, la lumière change sensiblement en fonction des blocs, quoi.
Alors, dans cette pièce calfeutrée où se déroule le face-à-face, là aussi, c'est très, très épuré comme mise en scène. Vous n'avez à votre disposition, Frédéric Mermoux, que la table, la vitre Santin à travers laquelle on est regardé et parfois on se retourne, et l'enregistreur. Qu'est-ce qu'il apporte, cet enregistreur, en termes de mise en scène ?
Mais je crois que l'enregistreur, il amène le fait que quand vous dites quelque chose, vous allez y laisser une trace.
Oui.
Donc au fond, il y a un enjeu. C'est comme maintenant là, je suis en train de vous parler. Je sais qu'au fond, ce que je suis en train de vous dire est enregistré. Ça crée une tension malgré tout, parce que on veut, quelle que soit la stratégie du suspect, il sait qu'à un moment donné, ce qui est dit est enregistré. Donc il va falloir en être responsable en quelque sorte, quoi. Donc ça crée une tension.
Dans cette deuxième pièce, de l'autre côté de la vitre Santin, là, il y a les flics. Il y a l'autre partie des flics. Il y en a deux qui sont en présence de l'avocat et du gardé à vue. Et de l'autre côté, il y en a deux ou trois qui observent la scène. Et ce contre-champ, Frédéric Mermoux, vous vous en servez énormément pour souligner tous les temps forts de l'interrogatoire.
D'une part, ça, et d'autre part, on essaie même de créer des liens, si on veut, entre les flics et les gardés à vue. Par exemple, le personnage de flic incarné par Margot Bansilon, qui est une jeune flic qui a été propulsée au chef d'équipe au début de notre saison, quand elle voit Nathalie Baye, justement, qui est soumise au tir nourri de Laurent Lucas, elle sent bien, au fond, que la pression en tant que femme que subit Nathalie Baye, c'est la pression que elle, en tant que femme flic et chef aussi, parce que c'est deux chefs, en quelque sorte. Donc, on essaie aussi de créer des échos entre ce qui se passe dans la salle d'observation et dans la salle d'interrogatoire.
On va l'écouter, cette jeune chef, brillante et très bonne élève.
Qu'est-ce que vous savez de la pression ?
Je sais ce que ça fait de jouer un rôle tous les jours sous le regard des autres. L'obligation d'être à la hauteur, de cacher ses doutes, la peur de décevoir. Et les quelques instants où on peut enfin souffler, n'être que soi-même.
C'est un luxe qu'on peut rarement se permettre.
Là, elle est en face de Jérémy Régnier. C'est intéressant parce que petit à petit se dévoilent non seulement les personnalités des mises en cause, mais de ceux qui les interrogent aussi. Donc chaque policier dévoile une partie de lui-même et surtout le groupe se fracture. Il se joue des rapports de force au milieu de cette équipe policière et c'est quand même en 3 épisodes la trajectoire d'une jeune femme qui doit imposer sa légitimité de chef.
Exactement. En fait, si vous voulez, chaque épisode est bouclé au niveau du suspect, oui. Mais par contre, on a ce qu'on appelle du feuilletonnant, donc une histoire des flics qui va se dérouler sur les 3 épisodes. Et l'histoire principale, si on veut, de ce groupe de flics, c'est l'histoire d'une jeune femme qui est propulsée chef d'équipe, que l'équipe qui n'est pas désirée par l'équipe, et c'est comment elle va réussir ou pas à, au fond, imposer sa légitimité, quoi. Absolument.
Est-ce que vous vouliez que dans cette équipe de flics, il y ait un représentant symbolique de chaque strate de la société ?
Bon, sans doute que quand on fait... Je trouve que le polar, une des vertus du polar, c'est de raconter au fond le temps d'aujourd'hui, quoi. Nous, on a essayé quand même d'avoir et des histoires et des personnages qui racontent la France de 2019, quoi, en quelque sorte, quoi. Donc c'est sûr que, comme le dispositif était assez stylisé, on cherchait aussi à avoir des personnages qui étaient assez stylisés et qui incarnaient au fond soit une éthique, en quelque sorte, soit une classe sociale, quoi. Mm-hmm. Ça, certainement, quoi. Et comme vous dites, en effet, Margot, elle joue... c'est une jeune flic brillante... appliquée et qui va au fond se rendre compte que pour pouvoir s'imposer, elle doit à un moment donné être elle-même et pas être uniquement le produit d'un système, quoi, en quelque sorte.
D'un système, et qu'elle fait face à des flics qui sont des hommes, parmi d'autres, mais des hommes, ouais. et des hommes qui ne sont pas forcément de sa classe sociale, puisque par exemple, l'un des cas va se résoudre ou tourner autour de l'intuition d'un flic qui dit « mais moi aussi je suis fils d'ouvrier ».
Absolument, ouais. Ouais, absolument. C'est vrai que là, ça c'est le flic qui est incarné par Stéphane Jobert, oui. Quand il est en train d'interviewer Nathalie Baye, en train de parler de questions de chantier, vu qu'un des ouvriers est mort, et on se rend compte que la pertinence des questions, la stratégie, va aussi être nourrie au fond par l'histoire de chaque flic, quoi. C'est pareil avec, par exemple, le personnage incarné par Mamed. Mmh. Lors du Bataclan, on se rend bien compte qu'il a une douceur, une manière d'appréhender les choses qui sont liées aussi à son histoire.
Alors, quoi. Un dernier mot sur ces 3 grands sujets de société que vous faites exister à travers 3 affaires. Le Bataclan, c'est pas un cas comme un autre. Je pense que c'est assez rare dans la vie d'un commissariat et d'une équipe de flics de comment dire, d'avoir à juger de la crédibilité de quelqu'un qui se dit victime.
Ouais, comment vous voulez justement parler un tout petit peu de ce qui travaillait un peu la société française d'aujourd'hui, oui. Quand on a réfléchi à cette thématique-là, on s'est dit, mais comment est-ce qu'on peut, au fond, affronter, traiter ce sujet qui est quand même fort, violent, assez terrifiant, quoi, mais de manière aussi assez subtile, si je puis dire.
Non, mais on vous attendait, fois... on voilà. Vous attendait sur un suspect terroriste, au fond.
Exactement.
Ou de complicité de terrorisme, ouais. De près ou de loin. Et non.
Et là, je trouvais que ça racontait.
C'est une victime.
Et ça racontait aussi qu'au fond, les attentats, d'une manière ou d'une autre, nous a tous touchés.
Oui.
Et c'est pas... Alors évidemment qu'il y a les victimes, ceux qui sont morts et ceux qui ont tué, mais au fond, une fois, je me rappelle, il y avait un interview de je sais plus si c'était un médecin ou un psychiatre qui racontait, mais on n'imagine pas aussi les dégâts, au fond, collatéraux de ce type d'événement. On a tendance à le cristalliser sur l'événement, évidemment, mais ça se propage quand même. Et d'une manière ou d'une autre, on a tous été frappés, contaminés par cet événement.
Merci beaucoup, Frédéric Mermoud. Donc, je répète, ça s'appelle Criminol. Le titre est un peu bateau, mais forcément, il fallait qu'il voyage dans 4 pays, puisque ça se passe en France, en Angleterre, en Espagne, en Allemagne. Vous avez réalisé le triptyque français, et c'est en ligne à partir de vendredi sur Netflix. À bientôt, Frédéric. Merci d'être venu dans l'instant M.